Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La démocratie exige quelques efforts, à l'échelle nationale comme au niveau européen. Les élections européennes auront lieu dans un mois tout juste. La campagne ne passionne pas les foules, comme d'habitude, et pourtant, la typologie politique qui sortira des urnes des 27 pays membres, peut-être même des 28, puisque nos amis britanniques vont pousser leur goût de l'absurde jusqu'à y participer, cette typologie sera riche de leçons et de conséquences. Le choix des prochains dirigeants de la Commission et du Parlement en dépend. Imprégné des préjugés propres à chaque situation nationale, les prédictions que l'on entend, notamment en France, méritent d'être confrontées aux études surprenantes qui viennent d'être conduites au niveau pan-européen. Par exemple, la question migratoire sera-t-elle véritablement déterminante aux yeux des électeurs? Le clivage entre l'Est et l'Ouest du continent sera-t-il aussi net? Les motivations purement nationales seront-elles décisives? Ou voit-on apparaître, chez les centaines de millions d'électeurs concernés, des priorités communes, une sorte de nouvel espace politique transnational? Un pays qui nous est proche, l'Espagne, offre à chaud un test intéressant, puisque demain, les Espagnols vont renouveler leur Parlement, et ce, au terme d'une campagne violente et incertaine, dans un mois rebelote pour les Espagnols, pour les élections européennes, municipales et régionales combinées. Même cas en Belgique, où les élections nationales et européennes interviendront le même jour. Commençons donc ce tour de l'Europe qui se prépare à aller aux urnes avec vous. Christine Verger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, une ancienne collaboratrice historique du président de la Commission. Par téléphone de Madrid, et je l'en remercie, Benoît Pellistrandi, vous êtes historien, un habitué de notre émission, ancien directeur des études de la Casa de Velázquez. Manuel Lafont-Rapnouille, merci d'être là. Vous dirigez le bureau de Paris de l'European Council on Foreign Relations, qu'on peut quand même traduire par Conseil européen des relations internationales. Par téléphone de Bruxelles, Pierre Verriens, vous êtes vice-doyen, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Et par téléphone aussi tout à l'heure, notre ami Jacques Rupnik du série de Sciences Po, spécialiste reconnu de l'Europe centrale et orientale. Benoît Pellistrandi, commençons donc par cette élection législative en Espagne. Donc demain dimanche, renouvellement des Cortes, 350 députés, 200 sénateurs. Est-ce que on retrouve, au terme d'une campagne qui semble avoir été extraordinairement agitée et même violente, est-ce qu'on retrouve des phénomènes que l'on a vus à l'œuvre dans d'autres pays voisins, ne serait-ce que la France?
Oui, sans aucun doute, car nous allons vraisemblablement avoir demain une nouvelle photographie politique avec des phénomènes de recomposition politique, mais qui passent d'abord par des phénomènes de décomposition. La grande victime de ces élections risque d'être le Parti populaire.
C'est-à-dire la droite traditionnelle.
Et traditionnelle, qui a gouverné entre 2015 et 2018. Auparavant, elle avait même gagné les élections avec la majorité absolue en 2011. Et le Parti populaire doit faire face à une concurrence sur sa droite, avec l'émergence de ce parti Vox, qui est effectivement maintenant qualifié parti d'extrême droite, tant il active à la fois un nationalisme qui emprunte aux résidus du franquisme beaucoup de ses souvenirs, mais aussi des thématiques que l'on trouve dans d'autres droites radicales européennes, vis-à-vis effectivement des questions migratoires, ou encore une guerre culturelle contre le progressisme. Et puis le Parti populaire est aussi concurrencé sur sa gauche par les centristes de Ciudadanos, mais on a observé que pendant toute la campagne électorale, ils avaient lentement dérivé vers la droite, à cause justement de cet appel d'air qui est en train de provoquer la crise catalane et la réponse que Vox semble lui apporter.
Mais qu'en est-il du donc cette Sanchez, donc le socialiste qui est au pouvoir, c'est lui qui a provoqué ces élections faute de majorité pour faire voter un budget. Il semble quand même être en tête dans les sondages.
Voilà, alors effectivement, le Parti Socialiste est dans une bien meilleure position que celle où il était il y a encore 3 ans. Les sondages lui accordent jusqu'à 30% des voix. Alors, ce sont des sondages que les Espagnols croient assez peu. Il est vrai aussi qu'il y a un certain optimisme dans le camp socialiste. Ils estiment qu'ils peuvent arracher jusqu'à 135 sièges. Ils en ont 84 dans l'Assemblée sortante. 135 sièges, ce serait un résultat assez spectaculaire, parce qu'ils amélioreraient sensiblement leurs résultats de 2016. Mais ne l'oublions pas, le Parti Socialiste a, de 1977 à 2011, obtenu des résultats qui étaient toujours au-dessus de 130 sièges. Donc il retrouverait un étiage qui était d'ailleurs parmi ses moins bons étiages sur l'histoire de la démocratie espagnole.
Mais en fait, ce qui a bouleversé la donne depuis 2017, c'est évidemment la crise catalane. Depuis ce référendum d'octobre 2017. Et c'est bien ce qui explique à la fois l'émergence de l'extrême droite, donc de Vox, et aussi la difficulté de conclure des alliances, si je comprends bien.
Vous avez tout à fait raison. La crise catalane a effectivement été un tel séisme politique et institutionnel, et j'ajouterai aussi émotionnel, tant en Catalogne que dans le reste de l'Espagne, que ces élections se font dans la suite de cet événement qui continue de tendre toute la vie politique espagnole. La difficulté pour Pedro Sanchez, qui peut gagner les élections, c'est qu'il va falloir construire une majorité absolue. La barre, c'est 176. Alors, va-t-il le faire en allant chercher du côté des centristes l'appoint nécessaire?
Mais ils ne s'aiment pas, paraît-il. Les deux dirigeants ne s'aiment pas. Ces deux jeunes gens ne s'aiment pas.
Ils ne s'aiment pas du tout. Et surtout, toute la campagne électorale de Albert Rivera, le leader centriste, a consisté à dire « Je ne ferai jamais d'alliance avec le Parti Socialiste ». Alors que c'est l'attente des milieux d'affaires et même, je dirais, des milieux médiatiques comme le groupe Prisa avec le journal El País. Alors, reste la gauche, Podemos, mais on s'attend à un recul assez sensible de cette formation politique, si bien que, une fois encore, Pedro Sanchez risque d'avoir besoin des voix des élus nationalistes, tant les nationalistes basques que les nationalistes catalans. Mais la grande difficulté, c'est que si on peut faire affaire avec les nationalistes basques qui ne remettent pas en cause la constitution de 1978, les nationalistes catalans sont devenus indépendantistes. Mmh. Et c'est le thème, du coup, qu'agite la droite espagnole pour dire, attention, en votant socialiste, vous votez pour ceux qui veulent défaire l'unité de l'Espagne et casser la constitution de 1978.
Donc, on voit... Et ça, c'est évidemment explosif. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Bruxelles, parce que c'est précisément là que Carlos Puigdemont, donc le leader indépendantiste catalan, a trouvé refuge. Pierre Vengeance, bonjour. Jusqu'à quel bonjour. Point est-ce que la présence sur le sol belge du leader catalan alimente et contribue aux tensions connues en Belgique entre flamands et wallons?
Mais assez peu en réalité. Donc on sait que la NVA a accueilli très favorablement Carlos Puigdemont, a même laissé Carlos Puigdemont organiser des conférences de presse dans l'hémicycle du Parlement flamand, donc Parlement de l'entité fédérée région flamande. Et donc c'est vrai que, je dirais, il y a un accueil, mais les autres partis ont juste dit que c'était une folie de la NVA et n'ont pas...
La NVA, rappelez-nous, expliquez-nous, la NVA, c'est le Parti nationaliste flamand.
Tout à fait, c'est le Parti nationaliste flamand et son nom est significatif puisque la traduction directe de son nom, ce qu'il d'ailleurs il précise sur leur site internet, c'est l'alliance néo-flamande. Donc c'est pas simplement une nouvelle alliance flamande, c'est l'alliance d'une nouvelle façon d'être flamand. Et d'ailleurs ils ont attaqué systématiquement l'Église catholique et toute une série d'institutions catholiques comme les mutuelles, l'école catholique et les syndicats catholiques depuis 2010 systématiquement.
La campagne pour les européennes en Belgique se confond avec la campagne pour les élections nationales. Hein. Tout ça a lieu le même jour, donc le 26 mai.
Totalement, donc oui.
Donc quel est le climat là ?
Régionales. Donc le climat est plutôt un climat, d'abord on sait qu'on aura aussi des élections régionales, donc là on aura des majorités qui seront plus faciles à composer, mais au niveau fédéral belge, alors là ça va être très difficile de composer une majorité, puisque la NVA reste le plus gros parti de Belgique dans les sondages qui viennent d'être publiés, mais a perdu quand même quelques pourcentages, donc elle est un peu moins fière, elle est très difficilement contournable, mais on peut l'imaginer. Mais il faudrait une alliance de tous les partis démocratiques flamands pour accepter de faire ça. Et ce n'est pas du tout l'ambiance en Flandre maintenant. Et donc, effectivement, on est plutôt parti dans une logique où ça va être relativement difficile de construire une majorité au niveau fédéral belge. Un petit peu comme on a effectivement vécu en 2010 ou en 2014. Hein, en 2010, il a fallu un an et demi pour pouvoir constituer un gouvernement, finalement sans la NVA. Et en 2014, alors que le gouvernement les choix politiques étaient relativement vite faits, il a quand même fallu 5 mois de négociations pour que cette alliance de droite, qui est au pouvoir toujours maintenant, puisse être constituée.
Ça fait partie des mystères belges qui, vus de France, sont aussi incompréhensibles que le surréalisme.
Quand ça va vite, ça prend 5 mois.
D'accord. Alors, on retourne à Madrid, vous rejoindre, Benoît Pellistrandi. Expliquez-nous jusqu'à quel point ce parti Vox, donc cette extrême droite qui a surpris l'Europe entière, en surgissant, donc si on vous a bien compris, en profitant en quelque sorte de cette fracture provoqué par l'indépendantisme catalan. Ce qui est très curieux quand on lit leur argumentaire, c'est qu'il y a évidemment la résurrection de toute la mémoire franquiste, mais aussi des mythes de cette Espagne impériale qui, depuis le Cid jusqu'à Franco en l'occurrence, aurait été délaissée par les gauchistes, les féministes, les femmes en particulier, en prennent pour leur grade.
Vous résumez bien l'idéologie que charrie ce mouvement, qui est né en 2015 d'une scission du Parti Populaire. Ce sont quelques militants, et notamment son actuel leader, Santiago Abascal, qui était un élu municipal du Parti Populaire au Pays Basque et qui avait été menacé par l'ETA. On trouve aussi parmi les membres fondateurs José Antonio Ortega Lara, qui était un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, qui avait été enlevé par l'ETA en 1997 et 95, et qui avait passé 532 jours dans les géoles de l'ETA. Si bien que, en fait, ces militants ont estimé que Mariano Rajoy, vis-à-vis du nationalisme catalan, n'était pas suffisamment ferme, et donc ils ont fait sécession, ils ont créé ce petit parti Vox qui était absolument marginal et qui ne comptait pour rien en 2015, et qui aujourd'hui peut entrer dans le Parlement avec peut-être 20, 25, 30, 35, voire 40 députés, ou plus, certains les voient même au-dessus de 40, et ce qui est effectivement très étonnant, c'est que c'est la droite la plus radicale, la plus dure qui vient. Elle mêle, comme vous l'avez dit, cette espèce de sentiment de nationalisme orgueilleux espagnol qui est une réaction à la fois au sentiment d'infériorité qui est nourri par l'idée qu'on méprise l'Espagne, que l'Espagne n'est pas suffisamment bien vue dans le monde. Et donc, en réaction, effectivement, on convoque toute l'histoire espagnole, vous l'avez dit, de la reconquête jusqu'à aujourd'hui. C'est une Espagne qui s'enivre de drapeaux, de symboles nationaux. Et puis, avec la thématique de la guerre culturelle contre le progressisme, les femmes font effectivement du coup l'objet de cette offensive très nette. Toute la politique de protection des femmes, le féminisme, sont les bêtes noires de Vox.
Et qu'en est-il de l'Europe ? Jusqu'à quel point est-ce que l'Europe occupe une place dans cet argumentaire ? Est-ce qu'ils sont anti-européens ?
Ils ne sont pas anti-européens parce que l'Espagne a longtemps été et reste euro-enthousiaste. Mais ce qui est extraordinairement frappant, c'est que les deux débats télévisés entre les 4 candidats à la présidence du gouvernement, alors Vox n'y participait pas parce que, n'ayant pas de représentation parlementaire sortante, la junte électorale n'avait pas autorisé leur participation. Mais pendant ces deux débats qui ont quand même en tout duré 4 heures, il n'y a pas eu un mot sur l'Europe. Pas eu un mot sur la politique étrangère. Et ça, c'est absolument consternant. Alors, pour en revenir à Vox précisément, ils ne sont pas anti-européens, mais ils commencent à laisser entendre une petite musique souverainiste qui remet en cause, non pas l'idée d'Europe, parce que l'Espagne ne peut pas se passer de cette idée d'Europe, mais remet en cause le fonctionnement de l'Europe actuelle.
Merci beaucoup Benoît Pellistrandi pour ces éclaircissements. On suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer demain en Espagne. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez trouvé dans la presse espagnole, surtout dans El País, témoignage du rôle et de la puissance des réseaux sociaux dans cette campagne électorale.
Oui, il y a d'ailleurs un exemple tout récent s'est déroulé lundi dernier lors du premier débat entre les candidats. On voit sur des images postées en ligne ces candidats, tous masculins, se concentrer et se préparer au débat. Mais surtout, on voit au premier plan des femmes de ménage en train de nettoyer le plateau de télévision. Alors, la vidéo a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et même si les quatre candidats sur le plateau ont bien abordé les thèmes liés au féminisme, comme le rappelle El País, ce n'est pas suffisant à estimer de son côté le collectif féministe Mujeres RTVE qui a souligné l'aspect choquant de la scène. On le voit avec cette polémique, les réseaux sociaux ont été au cœur de cette campagne électorale espagnole avec une particularité cette année. Jusque-là, les partis plus politiques utilisaient Facebook, Twitter ou Instagram pour diffuser leurs messages, mais cette fois, c'est WhatsApp qui est leur application favorite, nous dit El País. Un choix qui ne doit rien au hasard, WhatsApp est le réseau social le plus populaire en Espagne, au point, détaille El País, que les Espagnols passent en moyenne 90 minutes par jour sur cette application. Cette popularité transforme ce service de messagerie instantanée en un outil clé dans la bataille pour gagner des électeurs. Alors, le parti populaire qui utilise WhatsApp depuis 2014 revendique aujourd'hui des milliers d'abonnés qui échangent des idées, des photos, des vidéos. Même chose pour Vox, cette formation d'extrême droite. Pour Antonio Guterres Rubi, qui est l'auteur du livre La politique au temps WhatsApp, eh bien, les partis politiques ont compris que les gens se font d'abord confiance entre eux avant de croire aux institutions. Et le grand avantage de WhatsApp, poursuit-il, c'est qu'il permet aux idées de devenir rapidement virales. Un message atteint d'abord un premier niveau de groupe, qu'il passe à d'autres et encore à d'autres, etc.
Il y a un relatif contrôle de ces réseaux sociaux par crainte, notamment de la manipulation.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu pendant cette campagne un peu plus de responsabilité de la part des plateformes. Cette semaine, Facebook a par exemple supprimé les pages de trois groupes d'extrême droite qui comptabilisent 1,5 million d'abonnés, nous dit El País. Ce retrait de contenu quelques jours avant les élections générales est sans doute l'une des décisions les plus lourdes politiquement que Facebook ait eu à prendre en Espagne, commente le quotidien de Madrid. À l'origine de cette suppression, il y a l'enquête d'une ONG d'activistes, Avaaz, qui a montré comment ces groupes violaient les règles édictées par Facebook en recourant à des comptes falsifiés ou des comptes dupliqués. Les autorités espagnoles ont aussi pris des mesures pour éviter la propagation des fausses informations. Elles ont même établi tout récemment une unité spécialisée pour combattre, je cite, les menaces hybrides, c'est-à-dire les cyberattaques ou les campagnes de désinformation. Or, l'un de leurs plus grands sujets d'inquiétude concerne justement WhatsApp, car sur cette application, le message est envoyé par une personne que vous connaissez ou un groupe auquel vous appartenez, ce qui lui confère une plus forte crédibilité.
Quels sont donc les moyens des pouvoirs publics pour assurer une campagne propre, enfin convenable ?
Bien, vous savez, en Espagne, il y a un texte qui réglemente et encadre les campagnes publicitaires, les campagnes d'affichage publicitaire pour la politique. Mais cette loi date de 1985 et elle est totalement dépassée aujourd'hui. Derrière les panneaux publicitaires, il y a nécessairement une entreprise qui paie et une signature qui autorise cette dépense publicitaire. Mais derrière un message viral sur WhatsApp, la seule chose dont vous ayez besoin, ce sont des volontaires pour diffuser votre message, explique El País. Cette loi de 1985 interdit également de faire campagne la veille du vote ou de publier des sondages d'opinion quelques jours avant le scrutin. Mais c'est très facile de contourner ces deux interdictions via un compte Twitter qui peut même être anonyme ou avec des messages en chaîne, rapporte le journaliste d'El País. Clairement, si le gouvernement espagnol a tenté de faire une campagne plus convenable, il se bat avec des outils qui ne sont pas toujours adaptés, voire désuets.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Jacques Rupnik, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CERI, à Sciences Po, spécialiste reconnu de l'Europe centrale et orientale. Dans cette partie-là de l'Europe, jusqu'à quel point est-ce que les enjeux de désinformation sont des enjeux sensibles ?
Ils sont sensibles déjà parce que ce sont des pays qui, à cause de leur histoire pas si lointaine, sont, disons, très soucieux de garder leur distance vis-à-vis de la puissance russe. Et donc, surtout, on peut dire que depuis 3 ans, depuis la campagne américaine, depuis aussi certaines indications sur la campagne du Brexit, il y a une sensibilité accrue, disons, à cette question-là, à la façon dont certains pourraient utiliser ou abuser des réseaux sociaux, particulièrement dans les pays baltes. On peut dire que c'est une sensibilité qui est très présente. C'est lié au fait qu'il y a des minorités russophones dans ces pays, en Lettonie, en Estonie, et vous avez donc des sites, des ONG, des organisations qui utilisent et diffusent cette information et participent ou peuvent participer à ce titre dans la campagne. Donc voilà, il y a une sensibilité. Je voudrais pas l'exagérer parce que je dirais dans les pays comme la Pologne, la République tchèque ou la Hongrie, on considère que le débat politique, et en particulier le débat de la campagne européenne, va au-delà des manipulations ou des intentions que pourraient avoir certaines puissances voisines.
Précisément, dans ces pays où sont au pouvoir des partis ou des dirigeants qui sont ouvertement, sinon anti-européens, parce qu'ils touchent quand même énormément de subventions, mais enfin en tout cas anti-Bruxelles, pour simplifier, comment est-ce que cette campagne pour les élections européennes se déroule ? Commençons par la Hongrie.
Disons, la Hongrie a commencé très fort. Viktor Orban n'a pas déçu en lançant sa campagne européenne avec d'énormes affiches où on pouvait voir le président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, avec associé à George Soros, la bête noire du régime de Budapest, et c'est voilà l'ennemi en quelque sorte. C'était l'adversaire désigné sur ces affiches pour la campagne européenne.
Ça a plongé le PPE. Alors le PPE au Parlement européen, c'est donc l'agrégat des partis conservateurs dont fait partie Viktor Orban. Il a quand même été mis à pied, si j'ose dire.
Oui, là, véritablement...
Suspendu.
Il est allé trop loin, parce que l'année dernière, il avait fait sa campagne électorale ou législative avec des panneaux « Stop Bruxelles ». Bon, ce qui était déjà assez singulier, mais là, il est allé au-delà, il désignait ouvertement le président de la Commission comme l'adversaire, en plus un membre du PPE, à la réunion du PPE, où on lui a dit clairement qu'il avait dépassé les bornes. Et finalement, bon, le compromis a été trouvé, il est suspendu pour 6 mois, mais du coup, l'affiche a été retirée, mais je crois que le message est passé dans l'opinion que Viktor Orban avait un adversaire désigné qu'est la Commission, et que c'est un débat au sein du PPE pour savoir est-ce qu'ils veulent s'accommoder de Viktor Orban ou est-ce que éventuellement ils vont le pousser vers la sortie. Ils hésiteront à le faire parce que chaque voix compte et Viktor Orban va gagner ses élections européennes et bien sûr le PPE, qui sera affaibli par rapport à sa situation actuelle, voudra quand même compter sur les voix du Fidesz hongrois. Si ce n'était pas le cas, le Fidesz pourrait décider de s'allier. C'est ça qui est intéressant parce que la campagne européenne, par exemple en Pologne, a démarré en janvier lorsque M. Salvini, le leader de la Ligue du Nord italienne, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Varsovie pour sceller une sorte de pacte avec le PiS, avec le parti Droit et Justice en Pologne, le parti de Kaczynski, et ils ont même donc lancé
l'idée d'un printemps européen où l'axe polono-italien, comme disait Salvini, pourrait remplacer ou en tout cas contrer l'axe ou le couple franco-allemand. Donc là, voilà, la campagne là aussi était lancée dans une disons hostilité à Bruxelles ou aux forces politiques qui dominent à Bruxelles aujourd'hui.
Mais avec une opposition en Pologne qui profite de cette campagne européenne pour tenter de rassembler ses forces.
Absolument. Alors ça, c'est très particulier et on ne prête pas suffisamment attention à cela. L'opinion publique polonaise, en dépit de ce que des dénonciations quasi quotidiennes des politiciens du PiS, l'opinion polonaise est très pro-européenne. C'est la plus favorable à l'Union européenne au sein de l'Union. Et trois quarts des Polonais disent avoir confiance dans l'Union. Et donc ça, c'est la base qui a permis à une coalition européenne de se mettre en place en Pologne. Et je crois que on verra. Il y a plusieurs partis qui c'est pas toute l'opposition qui est rassemblée, mais une bonne partie qui est rassemblée. Et si cette coalition pro-européenne, dont Radek Sikorski, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est un peu la figure de proue, c'est lui qui est le plus actif dans la campagne. J'ai vu récemment là un débat qu'il avait mené avec les autres candidats. Là, il y a un test important, pas seulement pour l'Europe, mais pour les élections à venir en Pologne au mois d'octobre. Si d'aventure cette coalition pro-européenne devait remporter les élections européennes, arriver devant le PiS, devant le parti de Kaczynski, eh bien, ça annoncerait la possibilité de l'alternance pour les élections législatives du mois d'octobre. Et donc très important, parce que c'est quand même le grand pays d'Europe centrale. C'est cet axe Budapest-Varsovie qui a été, disons, le bastion de la résistance à l'Europe sur la crise des migrants, sur la question de la démocratie libérale et d'autres. Bref, si ces élections européennes devaient voir la victoire de l'opposition, on aurait là un présage, disons, de ce qui pourrait arriver aux législatives et donc de l'alternance polonaise en route.
Alors il y a un signal, je dirais, qui est presque à contre-courant de cette Europe orientale, avec les tensions que l'on sait et que vous venez de résumer entre Bruxelles et les différents dirigeants. C'est la Slovaquie, où l'on a vu une jeune femme ouvertement pro-européenne, elle a fait campagne pour l'Europe et elle vient d'être élue présidente.
Oui, alors ça c'est véritablement un coup de tonnerre dans le paysage politique centre-européen, parce que même si les pouvoirs de la présidence en Slovaquie sont limités, c'est pas un régime présidentiel comme en France, le fait qu'elle ait pu vaincre toute une série de candidats, en partie le candidat du parti au pouvoir, le parti Smer de M. Fico, eh bien, une jeune femme juriste qui a mené la lutte anticorruption, elle est connue pour donc son engagement dans la lutte anticorruption, très libérale sur pas seulement sur l'organisation politique du pays, mais aussi sur les questions de société, et surtout très pro-européenne, et elle n'a pas peur de le dire, elle a mené la campagne là-dessus. Et donc sa victoire est véritablement montre que là aussi l'alternance est possible, et que donc l'évolution que l'on a vue au cours des dernières années, au cours de la décennie, en gros, depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir, que cette évolution n'est pas irréversible. Et donc, il y a maintenant un nouveau parti, d'ailleurs, qui se crée en Slovaquie. Il est dirigé par le président qui quitte ses fonctions maintenant, M. Kiska. Et donc, le relais est passé à cette jeune femme, Mme Čaputová. Et voilà, il faudra voir aux élections européennes si l'essai est transformé. Ce n'est pas garanti parce qu'elle n'a pas de parti, elle n'a pas de machine électorale derrière elle, et l'engouement pour sa personne ne signifie pas forcément que les autres partis ont perdu la bataille, ou que surtout sur les questions européennes, ils seront prêts à la suivre jusque jusque dans la phase finale de la campagne européenne. Mais en tout cas, voilà, c'est un signe positif. Ça montre que là, d'abord qu'il y a une diversité en Europe centrale. Voilà, le groupe de Visegrad, hein, qui s'est opposé à l'Europe sur la question de la migration en particulier, c'est pas un bloc. Quand on voit quand on suit le débat européen pays par pays, ben on voit que chaque pays met l'accent sur des choses différentes. Ils ont aussi la question qu'ils doivent se poser. Avec qui s'associer après l'élection?
Alors, précisément, c'est ce que nous allons aborder maintenant. Merci mille fois, Jacques Krupnik, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe à l'Est. Manuel Lafont-Rapnouille, je rappelle que vous dirigez le bureau de Paris du Conseil européen des relations internationales. Et votre think tank a publié une étude tout à fait intéressante menée par un institut de sondage britannique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'excellente qualité, YouGov. Donc, une étude portant sur 14 pays, 46 000 personnes ont été interrogées. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à un certain nombre d'idées reçues que l'on traite constamment, et surtout en France, eh bien, ces idées reçues, elles sont contestables. Et par exemple, commençons par celle-là, la question migratoire n'est pas nécessairement le premier facteur qui pousse ou qui poussera ou qui pousserait les électeurs à faire leur choix.
Exactement. Donc c'est une enquête menée dans 14 États membres, vous l'avez dit. Ça fait 80% des députés, ces 14 États membres. Donc c'est assez représentatif. Et sur le fait migratoire notamment, il y a cette idée reçue que l'élection sera un référendum et sera exclusivement un référendum sur la question migratoire. Ce qui ressort de l'enquête, c'est deux choses. D'abord que la question migratoire fait partie des préoccupations des Européens, mais c'est certainement pas la préoccupation exclusive ou dominante. Il n'y a que dans les 14 pays auprès desquels on a fait l'enquête, il y a que en Hongrie que c'est la première préoccupation. Partout ailleurs, c'est une des préoccupations, mais avec d'autres, et d'autres qui sont des préoccupations économiques et sociales tout à fait classiques, des questions de sécurité et de terrorisme, les questions environnementales et le climat qui revient de façon assez constante partout. Et donc, en quelque sorte, il y a un premier problème avec cette idée que ça sera un référendum, exclusivement un référendum sur la migration, c'est qu'il y a d'autres sujets. Et par ailleurs, sur les migrations elles-mêmes, on a l'impression, quand il y a cette idée de référendum sur les migrations, que c'est essentiellement pour ou contre l'idée d'une Europe forteresse qui fermerait ses frontières, etc. En fait, on s'aperçoit que sur le sujet migratoire, il y a d'autres préoccupations. Il y a des pays où la préoccupation est beaucoup plus l'émigration que l'immigration. Et ce sont notamment des pays d'Europe centrale et orientale, mais pas uniquement. C'est aussi le cas en Espagne ou en Italie. Et donc, ça, là aussi, ça contredit un peu l'idée qu'il y a un clivage Est-Ouest, notamment sur ces questions migratoires.
Et donc, l'idée, oui, que les jeunes en particulier s'en vont, une fois qu'ils ont été formés, ils s'en vont chercher un avenir meilleur. Et souvent,
et ils n'attendent
au sein
pas
même
cet avenir
de
meilleur dans ce pays, mais ailleurs dans l'Union européenne, ouais, ou en dehors de l'Union européenne, mais y compris à l'intérieur de l'Union européenne, mais pas en Hongrie, ou en Espagne, ou en Italie.
Jusqu'à quel point est-ce que les enjeux nationaux, j'imagine que c'est une autre dimension de ce questionnaire, les enjeux, on dit toujours, ah ben finalement les Européennes, en gros, ça ne passionne pas les gens, ce qui les intéresse et ce qui les motive, c'est l'actualité nationale, c'est pour ou contre le pouvoir en place. Est-ce que là aussi, cette étude rogne quelque peu.
Exactement.
Cette...
Et on l'a vu d'ailleurs dans l'actualité récente, où on voit que le débat politique intérieur, par exemple en France, eh bien, il a lieu aussi sur quelles sont les forces pan-européennes que rejoindra tel ou tel parti. Est-ce que ceux qui sont candidats sur telle liste siégeront dans tel groupe ou avec qui feront-ils alliance? Mais aussi, le débat français, y compris sur les Gilets jaunes, a été impacté parce que les dirigeants italiens faisaient, etc. Et dans l'enquête, on voit que les débats sont toujours ancrés dans les systèmes politiques nationaux et les gens se positionnent par rapport à qui est au pouvoir à tel moment, quelles sont les forces en présence, mais que ces débats sont de plus en plus affectés par les débats dans le reste de l'Europe et que il y a des préoccupations proprement européennes qui surgissent effectivement à l'intérieur de l'espace politique que ces élections européennes révèlent.
Précisément, retournons brièvement à Bruxelles, vous rejoindre Pierre Vergent. On le disait tout à l'heure, vous nous l'expliquiez, le 26 mai, les Belges voteront plusieurs fois, si j'ose dire, pour les enjeux nationaux et aussi pour les européennes. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a une différenciation au sujet de l'Europe entre les différentes formations et entre les deux grandes régions du pays ?
D'une façon générale, je dirais la plupart des partis belges, en fait tous les partis qui ont une représentation importante sont pro-européens. Donc c'est une vieille tradition, c'est aussi une situation, je dirais, presque géopolitique. Hein, je veux dire, après avoir été le champ de bataille des guerres européennes, ben, la Belgique voit la paix avec plaisir, en quelque sorte. Mais j'aime bien effectivement l'expression qui vient d'être utilisée. Je pense que les débats sont ancrés nationalement, mais ils sont affectés effectivement par les débats nationaux, européens, pardon. Et donc, c'est vrai que la question, par exemple, de la place ou non du parti de Viktor Orban dans le PPE a été une question qui a été relancée systématiquement à des candidats du Centre démocrate humaniste, donc l'ancien parti social-chrétien, parce qu'effectivement, des gens leur disaient, mais comment pouvez-vous supporter d'être avec des gens qui sont aussi à droite ? Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des couleurs européennes qui arrivent de temps en temps, mais l'ancrage est fondamentalement national, effectivement.
Et sur la politique migratoire, est-ce que là, il y a véritablement des crispations et des divergences ?
Ah, ça c'est très clair, oui, tout à fait. Donc la NVA a quitté le gouvernement dans lequel elle était la force principale depuis 4 ans.
Hein, donc ça, c'est la droite dure flamande.
C'est la droite dure flamande, et elle l'a quittée sur le pacte des migrations, parce que la NVA venait d'observer que lors des élections communales et provinciales d'octobre 2018, elle venait de perdre de nombreux pourcents d'électeurs en faveur du Vlaams Belang, qui lui est un parti carrément d'extrême droite. Et donc la NVA a durci son discours contre le pacte international des migrations signé à Marrakech.
Et, ah oui, à propos duquel il y a eu une désinformation absolument délirante sur les réseaux sociaux. Voilà.
Sur les réseaux qui en fait reprenaient les images de l'AFD en fait en Allemagne. Donc.
Alors on a vu que l'un des fils de Michel Barnier, donc le négociateur européen du Brexit, donc l'un de ses fils, ou son fils, je ne sais pas s'il en a plusieurs, est candidat en Belgique pour les élections européennes sur la liste du Premier ministre belge sortant, donc Charles Michel, qui est une liste libérale. Le fils Barnier s'installe en quelque sorte dans ce qui apparaît comme être le début d'un espace politique transnational.
Oui, tout à fait. Un petit peu comme Manuel Valls quand il se présente à la mairie de Barcelone. Je dirais que c'est une tentative d'élargissement de sa sphère politique. C'est intéressant à observer.
Et pas le même parti que son père.
Pas le même parti, mais aussi.
C'est pas très loin.
Belges ne correspondent pas exactement au parti français non plus. Oui. Mais en même temps, le parti le MR, donc le mouvement réformateur, doit son qualificatif réformateur au fait que ce parti avait choisi le mot réforme à l'époque de Giscard. Et donc, effectivement, c'était bien une imitation française des réformes et des indépendants comme proposait Giscard à l'époque, qui fait que Charles Michel est maintenant à la tête d'un parti qui se dit réformateur. Et donc, il y a une sorte de continuité, je dirais, giscardienne, si on veut.
Et il y a en tout cas, encore une fois, même si c'était l'un des projets d'Emmanuel Macron, d'essayer de créer une liste transnationale au cas où les députés britanniques quittaient Strasbourg, bon, c'est pas encore sûr. On voit aussi, d'ailleurs, qu'il y a un Italien, l'ancien secrétaire d'État Sandro Gozzi, qui, lui, est sur la liste de La République en marche en France. Pierre Vergennes, merci mille fois de nous avoir éclairé sur les complications belges. Christine Verger, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes conseillère et responsable des relations avec les parlements à l'Institut Jacques Delors. Un institut qui a publié plusieurs notes sur les perspectives ouvertes par ces élections européennes et donc une recomposition évidente, quels que soient les résultats, une recomposition majeure de ce paysage politique dont on méconnaît trop souvent les subtilités.
Oui, nous avons publié depuis l'automne déjà 3 notes dans le cadre d'un groupe de travail qui est présidé par Pascal Lamy et dont je suis la rapporteure. Une première note qui essaye de faire le pronostic de ce que pourrait être le Parlement européen après les élections, puisqu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas 27 ou 28 élections nationales. En fait, on élit un Parlement européen de 751 députés issus de 27 et 28 pays. J'en fais également un papier.
Et là, ce que l'on voit, c'est que, de toute façon, il y aura un éclatement du paysage traditionnel, où on voyait, pour aller vite, deux grandes formations.
Absolument.
Je dirais qu'il y a conservateurs d'un côté, sociaux-démocrates de l'autre.
Il y a trois tendances lourdes. Enfin, il faut attendre évidemment le résultat des élections, mais je pense que ce qu'on voit depuis octobre se confirme, sondage après sondage. Premièrement, il est fort probable que les extrêmes n'auront pas la force quantitative que certains médias avaient prévu qu'ils aient. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'ensemble des groupes politiques, qui sont au nombre de 3, qui représentent la droite de la droite, forment déjà à peu près 20% du Parlement européen.
Il pourrait néanmoins faire davantage.
Il pourrait aller, de notre point de vue, jusqu'à 25%. Mais n'oublions pas qu'ils sont très divisés aussi entre eux. Il n'est pas sûr que les 3 groupes demeurent en l'état. Il est sûr, en tout cas, que le groupe qui s'appelle Europe des Nations et des Libertés, dans lequel on trouve le parti Rassemblement National et la Ligue de Matteo Salvini, c'est le seul parti vraiment d'extrême droite qui va sans doute augmenter à cause de l'arrivée massive des Italiens. Mais dans les 2 autres groupes, les pronostics sont assez stables, si ce n'est à la baisse. Donc ça, c'est le premier mythe. Certes, les extrêmes vont un peu augmenter, mais ils ne vont pas non plus avoir une majorité telle qu'elle puisse déstabiliser le fonctionnement du Parlement européen. La deuxième grande tendance, qui à mon avis sera confirmée, c'est en tout cas, comme vous l'avez dit, l'affaiblissement des 2 grandes familles politiques traditionnelles que sont le PPE, c'est-à-dire le centre-droit, et les socialistes sociaux-démocrates, c'est-à-dire le centre-gauche. Jusqu'à présent, et depuis très très longtemps, ces 2 familles politiques gouvernaient non seulement le Parlement européen, mais aussi les autres institutions. Elles se partageaient le pouvoir, en quelque sorte. C'était une sorte de condominium bipartisan. Et même en 2014, elles n'avaient même pas eu besoin d'écrire un contrat de coalition entre elles. Il suffisait que M. Schulz et M. Juncker prennent un café ensemble pour que les choses soient réglées et que la plupart des députés, comme un seul homme ou comme une seule femme, votent de la même manière.
Mais c'est là aussi ce qui a beaucoup contribué à la fois à la méconnaissance des institutions européennes de la part des électeurs et aussi un certain agacement, sinon une vraie hostilité à l'idée qu'en fait on ne sait pas du tout comment ça se passe.
Absolument.
Et là, ce qui est très intéressant dans les différentes études, les vôtres, celles dont faisait état Manuel Lafont-Rapnouille, et aussi une autre étude très intéressante conduite par une plateforme civique qui s'appelle make.org, qui a interrogé 1 700 000 participants dans 24 pays d'Europe. Et là, on voit, Emmanuel y faisait allusion tout à l'heure, que ce qui émerge, donc c'est l'idée qu'on va aller demander à la base des idées à faire remonter vers le haut. Et les propositions concrètes qui émergent concernent effectivement l'environnement, absolument, d'abord, l'évasion fiscale, qui est un sujet de préoccupation majeur, la protection sociale et la transparence concernant les décisions, les mécanismes communautaires.
Alors, sur la question de la transparence, je dois dire par expérience que le Parlement européen est une institution extrêmement transparente.
Oui, encore faut-il avoir envie de se
connecter.
Voilà.
Mais aujourd'hui, avec le monde tel qu'il est connecté, si on veut, on peut. Le Parlement européen est très présent sur les réseaux sociaux, l'ensemble de ses réunions est public. Les seules réunions qui ne sont pas publiques, ça n'est pas du fait du Parlement européen, c'est du fait en particulier du Conseil des ministres. Le Parlement européen dispose par exemple d'importants pouvoirs législatifs. C'est ce qu'on appelle la codécision entre le Parlement européen et les gouvernements des États membres. Dans 85 domaines, la législation ne peut passer que si elle est adoptée par les deux instances. Et ils se réunissent dans ce qu'on appelle des trilogues, où sont représentés les ministres des gouvernements, les parlementaires et les représentants de la Commission. Ces trilogues, eux, ne sont pas publics. Car le Conseil n'en veut pas, ne veut pas que le positionnement des différents États membres soit connu de l'extérieur. Or, le Parlement européen...
Non, parce que ça permet ensuite, dans les conférences de presse nationales, de dire que c'est la faute de Bruxelles.
Absolument. Et donc, le Parlement européen, pour la majorité des élus qui le composent, revendique la transparence de ces fameux trilogues où est décidée la législation européenne, et ça serait une grande avancée à l'avenir s'il l'obtenait.
Manuel Lafont-Rapnouille, retournons donc vers l'étude que l'on pourra consulter facilement sur le site de le CFR.
CFR.eu.
On voit qu'une autre idée reçue, c'est cette idée des tribus. Qu'en quelque sorte, l'électorat, un peu partout, en tout cas ceux qui se dérangeront pour aller voter le 26 mai, se déterminerait toujours entre, d'un côté, l'ouverture, de l'autre côté, la fermeture. Donc, d'un côté, ce qui compte, c'est l'ouverture vers l'Europe, vers les autres, etc. Et l'autre, la fermeture sur un souci, une question identitaire majeur. Est-ce que ça, votre étude le confirme ou pas ?
Eh bien non, justement. L'idée des tribus, c'est quelque chose qui vient de l'analyse électorale, notamment de l'élection britannique sur le Brexit et après l'élection présidentielle américaine où Trump a gagné, avec l'idée que on a des groupes dans l'électorat qui non seulement ont des convictions très fortes, très ancrées, très polarisées, et qu'il n'y a pas de zone de recoupement entre les électorats. Il est quasiment impossible de voir un électeur passer d'un bord à l'autre. Et on constate, c'est vrai que dans le paysage politique en Europe, il y a une polarisation du paysage, des forces politiques, il y a une polarisation du discours. Mais ce que l'étude montre, c'est que par contre, il y a une grande volatilité et indécision des électeurs. En France, on le voit dans les sondages, quand on a au moins un quart de l'électorat qui ne sait pas encore... qui pense qu'il ira voter, mais qui ne sait pas encore pour qui. Et nous, on a recensé à l'échelle européenne à peu près 100 millions d'électeurs qui iront sans doute voter, mais ne savent pas encore.
100 millions sur combien ? Je ne suis pas parvenu à trouver le chiffre.
C'est 500 millions d'habitants, mais je ne sais pas combien.
375 à peu près.
375 millions d'électeurs.
Ça fait un petit tiers, et donc c'est assez conséquent. Et ce qu'on voit, c'est que le discours de polarisation, le discours qui veut faire de cette élection une élection existentielle, soit parce que la migration, soit parce que c'est la survie de l'Union européenne qui est en jeu, en fait, il polarise effectivement, mais il mobilise assez peu. Et il mobilise assez peu parce que cette idée qu'il y a un affrontement entre une Europe ouverte et des États-nations fermés, une autre idée reçue que notre étude permet de contester, parce que les électeurs, en fait, opposent assez peu leur identité nationale et leur identité européenne, souvent sont en fait très frustrés du système politique tant national que européen, et dans certains cas plus du système politique national que du système politique européen, et ce qui domine, en fait, c'est l'attente de changement, d'une vérité, aussi bien pour les pro-européens que pour ceux qui sont plus sceptiques, il y a une attente de changement et de transformation et beaucoup moins une défense du statu quo contre une volonté de sortie de l'Union européenne. Ce qui sans doute était une façon dont le débat se structurait il y a encore quelques années.
Donc ça veut dire, Christine Verger, qu'il y a à peu près 70% à l'échelle pan-européenne, il y aurait quelques 70% d'indécis. Étant entendu que dans tous les chiffres ou les approximations que nous citons, on ne tient pas compte du cas britannique, qui encore une fois est tellement hors norme. On ne sait toujours pas quel sera le scénario. Il est néanmoins probable, et il semble que le gouvernement britannique soit obligé d'y penser, qu'il y aura effectivement une participation britannique à ces élections, ce qui va évidemment modifier quelque peu les rapports de force entre les différents groupes, puisqu'on a vu que monsieur Nigel Farage, qui s'est toujours battu contre l'Europe tout en conservant précieusement son siège de député européen pendant fort longtemps, Farage en tout cas semble en flèche dans les sondages.
Seulement, il y a aussi les travaillistes qui pourraient profiter des élections européennes.
Donc ce qui sera important, une fois qu'on aura donc cette nouvelle cartographie politique européenne, après le 26 mai, c'est de voir en particulier comment sera élu le président du Parlement. Emmanuel Macron a déjà dit qu'il n'était pas question de continuer avec ce système au nom allemand et un peu difficile à mémoriser, de Spitzenkandidaten, oui, qui consistait à ce que ce soit le parti le plus nombreux qui décide de l'identité, en quelque sorte, du président du Parlement. Donc les jeux sont plus ouverts.
En fait, ce n'est pas le président du Parlement, c'est le président de la Commission européenne.
Président de la Commission, pardon.
Parce que, en effet, il y a eu cette procédure qui n'existe pas dans les traités, mais qui a été mise en pratique dès 2014 sur l'insistance des grandes familles politiques traditionnelles. C'est une façon de parlementariser, si vous voulez, le système politique, selon lequel les chefs de file des grands partis politiques européens feraient campagne pour que celui arrivé en tête devienne le président de la Commission européenne. Et comme je le disais tout à l'heure, la différence entre 2019, où la procédure va sans doute de nouveau être mise en place avec une chance relative de trouver un débouché, la différence entre 2014 et 2019, c'est précisément que les deux familles politiques traditionnelles ne pourront plus se mettre d'accord pour désigner le futur président de la Commission, puisqu'elles ne constitueront plus une majorité.
Et que là, les libéraux auxquels pourraient ou non se joindre les députés de La République En Marche pourraient avoir évidemment une influence plus grande que précédemment.
Et même peut-être les Verts. Et c'est la raison pour laquelle, après les élections du 26 mai, sachant que la montée de l'extrême droite sera relative, l'affaiblissement des deux grandes familles politiques traditionnelles est assuré, il va y avoir un rôle charnière central pour la famille dite libérale, dont je n'exclus pas d'ailleurs qu'elle change de nom, peut-être pour faire plaisir à M. Macron.
Mais c'est-à-dire qu'en, oui, dans le vocabulaire politique français, c'est un adjectif qui reste très ambigu.
Voilà. D'ailleurs, le groupe concerné au Parlement européen ne s'appelle pas seulement libéral, il s'appelle libéral et démocrate, puisque, oui, à la demande de François Bayrou et de Francesco Rutelli il y a quelques années, la dimension entre guillemets démocrate s'était ajoutée. Je n'exclus pas qu'après le 26 mai, il trouve encore un autre titre. Mais ce groupe va très probablement augmenter en sièges, et évidemment d'autant plus augmenter si les élus de La République En Marche le rejoignent. Il pourrait atteindre une centaine de députés, ce qui en ferait un groupe absolument central, pas seulement pour les nominations futures. Il n'y a pas que le président de la Commission, il y a le président du Conseil européen, en premier lieu le président du Parlement européen, même peut-être le président de la Banque centrale européenne fera-t-il partie du paquet. Et dans ce paquet, les différentes familles politiques devront trouver leur compte, et pas seulement le PPE et les socialistes.
Et donc là, on voit bien à quel point les enjeux sont considérables. Et cependant, Manuel Lafont-Rapnouille, on voit à quel point l'apathie, le désintérêt, l'irrésolution en ce qui concerne ces élections européennes, on la constate un peu partout en Europe.
Alors, c'est très frappant de voir, malgré l'européanisation dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'on a non seulement un débat politique qui s'ouvre de plus en plus à ce qui se passe dans le reste de l'Europe et pas juste dans ce qui se passe dans le pays, mais aussi des thèmes de la campagne qui sont beaucoup moins des thèmes nationaux qu'avant. On peut penser à la migration dont on a parlé, mais aussi à la question de la situation économique, le climat, les accords de commerce, la question du retour du nationalisme, qui est une autre idée qui ressort de notre enquête, sont des thèmes proprement européens. Et effectivement, on voit c'est pas juste la volatilité de l'électorat dont je parlais tout à l'heure, mais une campagne qui a du mal à agripper et avoir de l'attraction sur les électeurs, des électeurs qui effectivement s'interrogent et ont du mal à être convaincus. Le discours de polarisation dont je parlais tout à l'heure, il est assez efficace pour mobiliser les gens qui sont les plus motivés par certains sujets, ceux qui justement sont clivants, mais c'est beaucoup moins efficace pour mobiliser au-delà de ces clientèles politiques. Et effectivement, c'est assez inquiétant. Une des choses sur lesquelles mes collègues qui donc ont fait cette étude, Ivan Krastev, Marc Léonard et Suzy Denison, concluent, c'est de dire que l'Union européenne, le projet européen a été créé par des sociétés qui avaient peur du passé, qui craignaient un retour du passé, et qu'aujourd'hui, le problème semble beaucoup plus être la peur de l'avenir. Et donc on a fait cette étude pour dissiper un certain nombre d'idées reçues, et je pense que c'est important, mais ils insistent beaucoup dans la conclusion sur l'idée du besoin de trouver justement un agenda positif qui réponde aux préoccupations d'une part beaucoup plus large de l'électorat que celle qui est aujourd'hui travaillée par ces quelques thèmes qu'on met en avant.
Un agenda positif qui rejoindrait effectivement ces priorités qui sont assez largement commune au niveau des 27 et peut-être même des 28. Un dernier mot, Manuel, sur ce que j'ai découvert là aussi sur votre site, et j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, la mesure de la cohésion européenne, ça veut dire quoi?
Alors, c'est une enquête qu'on répète dans le temps. Donc, c'est une nouvelle édition qui vient de sortir de effectivement la cohésion européenne. L'idée, c'est que il y a un appétit plus ou moins grand des États membres et des sociétés européennes à faire des choix en commun. Et que le terreau de cet appétit, c'est cette idée de cohésion. On la mesure sur la base, pour le coup, d'enquêtes et d'indicateurs qui existent. Pour certains, des indicateurs objectifs. Le nombre de fonds européens reçus, le nombre d'étudiants qui participent à Erasmus, le nombre de jumelages entre collectivités. Et donc on mesure à la fois la cohésion structurelle, ce qui lie les sociétés entre elles, leurs économies, leurs institutions, et la cohésion individuelle, c'est-à-dire la façon dont les individus sont exposés ou pas à ces liens européens, les travailleurs transfrontaliers. Et ça montre des trajectoires qui sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Dans les éditions précédentes, on avait vu une chute de cet indicateur de la cohésion côté britannique. On l'avait vu aussi avant les élections législatives en Italie sur l'Italie. Et évidemment, une des choses que je regarde attentivement en ce moment, c'est que dans la dernière version, on voit une hausse de la cohésion structurelle pour la France, mais une baisse de la cohésion individuelle. Et donc, avec mes collègues qui gèrent ce projet, on essaye de tirer des conséquences et d'interpréter ces évolutions.
Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci, Emmanuel Lafont-Rapnouille. Donc, vous pourrez trouver sur le site de l'ECFR les différents rapports dont nous avons parlé, et en particulier celui qui concerne les mythes démystifiés, donc par cette étude, par ce sondage mené à grande échelle au niveau des 27. Merci à vous, Christine Verger. On trouvera aussi sur le site de notre institut, Institut Jacques Delors, les différents rapports auxquels vous avez fait allusion. Je remercie bien sûr Benoît Pellistrandi qui était avec nous depuis Madrid et qui vient de publier Le Labyrinthe catalan aux éditions d'Esclé de Brouwer. Merci à Pierre Vergiens qui a contribué à un ouvrage collectif sur les populismes et les nationalismes. Il y a écrit un papier très intéressant sur les glissements sémantiques de l'alliance néo-flamande. Merci enfin à Jacques Rupnik qui a dirigé l'ouvrage collectif Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages aux presses de Sciences Po. Merci à Eric Scholl de Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Nasser Moussaoui. Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, a préparé cette émission. Et aujourd'hui, samedi, vous avez rendez-vous avec Frédéric Saïs. Très bon week-end sur France Culture.